L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le comité Nicaragua-Occitanie avec Michel Dulcir, qui est le secrétaire de cette association, et Martha Chacon. Martha, vous êtes du Costa Rica, mais vous êtes aussi très intéressée, évidemment, par la situation du Nicaragua. Alors, comment s'est fondé ce comité ?
Alors, ce comité s'est fondé, on a commencé à en parler il y a à peu près depuis un an et demi, deux ans, hein, depuis les fameuses émeutes meurtrières d'avril 2018. Hein. Nous avons commencé à en parler. Alors, qui sont les « nous » ? Les « nous », ce sont d'abord des vieux comme moi, donc qui avons travaillé au Nicaragua du temps de ce qu'on a appelé la révolution sandiniste. La révolution sandiniste, ce sont le Front Sandiniste de Libération Nationale, le FSLN, donc qui a renversé le dictateur qui a exercé le père en fils au Nicaragua depuis les années 30, hein, donc qui l'ont renversé en 1979, le 18 juillet 1979. Et donc à la suite, il y a eu beaucoup de modifications d'un seul coup, hein, donc qui nous ont intéressés, hein, enfin je dis nous, les vieux, hein, qui étions à l'époque là-bas, dans le domaine de la reconstruction agraire en particulier.
Hein. Oui, parce que vous êtes des chercheurs agronomes, justement.
Voilà, dans le domaine, disons, de la ruralité, de l'agronomie. Et ce qui nous a intéressé, c'était de travailler justement avec des gens qui avant étaient des travailleurs sans terre et qui d'un seul coup sont devenus dans ces domaines, on n'appelait pas ça domaine autogéré, hein, dans ces coopératives agricoles sandinistes, les CAS, hein, sont des gens qui, ensemble, hein, définissaient les plans de culture, ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient le faire, etc. Donc c'était pour nous, effectivement, vu le pourquoi on était venu au Nicaragua pour soutenir cette démarche de révolutionnaire, disons, ou de rénovation. Hein. C'était très intéressant de travailler avec ce type de personnes qui étaient, et ça je crois que c'est important, moi j'avais beaucoup ressenti, très exigeantes. Hein. Et c'est pas forcément évident, là je suis, moi qui travaillais beaucoup dans les pays en voie de développement, c'est dans ce pays-là, hein, que j'ai eu vraiment des gens qui m'interpellaient le plus, dans un sens positif, hein, je fais des grands gestes, mais dans un sens positif. C'est-à-dire que je n'étais pas là uniquement comme un chercheur qui savait tout, qui venait d'étranger, qui savait tout, mais au contraire, j'étais là pour les aider à comprendre comment faire mieux, dans quel sens aller, etc.
Voilà, donc, c'était une expérience tout à fait intéressante et un peu exceptionnelle.
Ah, de ce point de vue-là, c'est l'expérience la plus exceptionnelle. Je l'ai un petit peu retrouvée dans des structures similaires au Venezuela une vingtaine d'années après. Mais bon, c'est autre chose. Mais j'avais retrouvé exactement ça. Des gens qui n'étaient pas là pour m'écouter, pour que poser des questions, mais pour
avancer
et répondre à leurs questions à eux. Hein. Comment ensemble déterminer des façons de faire, des façons d'agir, etc.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous regrouper à nouveau sur le Nicaragua ?
Alors, c'est donc le Front Sandiniste est resté une dizaine d'années au pouvoir. Hein. Il a perdu les élections fin 89. Et en mai 1990, c'est Violeta Chamorro, donc la candidate de l'opposition, disons de droite, hein, qui est arrivée au pouvoir. Et donc, nous-mêmes, nous sommes partis pour différentes raisons. Un certain nombre d'entre nous sont partis, d'autres sont un peu restés, bon, peu importe. Mais Ortega, lui, qui était donc le président pendant les 10 ans des sandinistes, est revenu au pouvoir quelques années après, une quinzaine d'années après à peu près. Et là, c'était plus le même. C'est-à-dire, cet Ortega n'était plus, le représentant des gens du peuple qui avait pris le pouvoir contre le tyran qui avait été renversé en 79. Hein. Mais lui-même est devenu un tyran. C'est-à-dire, c'est resté, le Front sandiniste a perdu des gens, mais il existe encore, le FSLN existe encore, mais clairement, ils sont tous derrière Ortega. Ortega et son épouse Murillo, qui, tous les deux, ont pris le pays en main.
Un couple infernal.
Ouais.
Ben, on pourrait appeler comme ça, effectivement, un couple infernal. Je crois que ce qui est important, c'est un couple infernal par les lois qui ont été proposées, ça on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, les lois qui sont imposées peu à peu, mais aussi par les massacres. Le réveil de l'opposition à ce gouvernement, ça a été les massacres d'avril 2018. Donc il y a eu 300-400 personnes, je n'ai pas le chiffre en tête, qui ont été tuées, et plusieurs milliers de blessés officiels. Il y en a sûrement eu plus qui n'ont pas osé se faire connaître. Mais ça a été le point de départ un peu d'une opposition unie, on pourrait dire, face au couple Ortega.
Donc vous vous êtes constitué en comité pour apporter une solidarité.
Absolument.
Oui, on a pensé à faire le comité pour appuyer les peuples nicaraguayens. Parce que la situation qu'ils vivent maintenant, c'est très difficile. Il y a beaucoup de répression, il y a beaucoup de lois qui changent vraiment tout. Et alors, la famille de Ortega et Murillo, ils ont pris beaucoup de pouvoir. Et tous les gens qui sont contre eux, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Et alors, cette couple, il y a des gens qui les appuient. Et alors, c'est des gens qui travaillent avec eux, qui les donnent ils font des petites lois, ils donnent des maisons, ils donnent des animaux, ils donnent des choses aux ces gens-là, et ces gens-là sont avec eux. Ils les appuient. Mais tous les gens qui sont un peu critiques, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec eux. Ils souffrent beaucoup la répression, l'intimidation. C'est très difficile.
Oui, ce qu'il faut savoir peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est qu'il y a eu quand même énormément de réfugiés qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas réussi à vivre dans cette ambiance de répression dure. Donc, et en particulier plusieurs dizaines de milliers, tu as peut-être le chiffre, qui sont tout à côté, un pays à côté, au sud, au Costa Rica.
Oui, ces réfugiés, donc cette diaspora reste active.
Oui, oui, alors les gens sont partis, beaucoup de gens sont partis parce qu'il y avait la police derrière eux. Alors ils sont partis au Costa Rica et ils ont sollicité l'asile politique. Et alors, Costa Rica, ils se sont fait des associations et des ONG qui essayent de les aider. Mais c'est difficile parce que c'est beaucoup de gens qui sont venus et il n'y a pas l'argent pour faire des choses bien.
Ils ont été bien accueillis au Costa Rica?
Alors là, c'est un peu difficile, ouais, parce que au Costa Rica, c'est comme ici, avec les gens qui viennent des autres pays en grande quantité, non? Alors, au Costa Rica, il y a une discrimination pour les Nicaraguayens depuis toujours, presque, parce que ils sont migrés au Costa Rica plusieurs fois. Mais maintenant, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Alors, même s'ils font des travaux que les Costariciens n'aiment pas faire, par exemple, ils travaillent dans les fermes, dans la construction, etc. Mais oui, le Costa Rica, par exemple, toutes les choses qui se passent, qui sont des choses mauvaises, qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, tout le monde dit « Ah, c'est les Nicaraguayens !» Toujours c'est comme ça, c'est comme...
Oui, ils servent un peu de bouc émissaire.
Oui, oui. Et alors, il y a des gens qui aiment bien les Nicaraguayens, mais la population, en général, et ils ne sont pas... sont pas très accueillants parce que...
Donc, vous connaissez bien le problème, étant costaricaine, vous avez vu ces personnes arriver et tout ce qui s'en est suivi.
Depuis des années, mais bon, heureusement, bon, il y a des petites aides, non, et aussi, par exemple, nous, le comité... Il essaye d'appuyer des organisations au Costa Rica. Et entre eux, il y a une association qui s'était fondée pour des Nicaraguayens, mais qu'il essaye de faire des petits projets pour aider, pour mettre les gens au travail, et pour gagner sa vie.
Oui, cette solidarité, donc, s'exerce auprès de ces réfugiés qui vont dans les pays limitrophes.
Oui, selon nous parlerons un peu plus tout à l'heure. Là.
Voilà, alors donc, vous avez apporté de la musique, de quoi s'agit-il?
Bien, des frères Enrique Mejía Godoy, donc je crois qu'on commence par Luis, je ne sais plus si c'est Carlos ou Luis. Hein. C'est et Carlos, donc on commence par Carlos Enrique Mejía Godoy, donc qui nous chante, j'ai oublié aussi.
En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen el Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos, del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros.
Del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Y el asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
Me defiendo como gato panza arriba. En la farmacia surtida del mentado Cletourros. Tiene bretis Clodomiro, él es el cachimber boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó.
Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó.
A ver Clodomiro,
¿y buen patronito?
Andate a la ferretería y me compras.
¿Qué cosa?
Una libra de clavos y un formón.
Esto está chiche, oiga. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón.
No, 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 no. Apúntalo porque se te puede olvidar.
No se me olvida, patroncito. Yo tengo un truquito que nunca falla. Le pongo musiquita. Oiga. Una libra de clavos y un formón.
Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voilà, alors nous parlons du Nicaragua avec le comité Nicaragua-Occitanie. Vous avez expliqué évidemment la situation du pays. À l'heure actuelle, il y a quand même une opposition, mais elle est très divisée.
Alors, une opposition très divisée qui va de, disons, de l'extrême gauche à la droite, hein, mais qui a réussi plus ou moins, on ne va pas donner de détails, mais à s'unir, hein, au sein de ce qu'ils appellent la Union Nationale Azul y Blanco, l'Union Nationale bleu et blanc.
Oui.
Donc ils regroupent. Bon, il y a eu des tensions, mais globalement, ils tiennent à peu près la route face aux prochaines élections qui ont donc lieu courant de l'année prochaine. Je n'ai pas le mois exact, je ne sais pas s'il est fixé.
Les élections?
Oui.
Le 5 novembre.
Ah, c'est en novembre 2021, oui. donc dans un peu plus d'un an.
Dans un an.
Oui, une grosse année. Absolument.
Donc, votre rôle, c'est d'aider cette opposition, ou bien c'est simplement à titre humanitaire que vous aidez les réfugiés ailleurs?
Bon, alors, ça a été des discussions, surtout au début, mais clairement, notre rôle, il est d'appuyer des projets. Des projets qui permettent, je vais dire, au peuple, entre guillemets, ou à des gens, hein, de résister, se développer face au climat actuel que fait régner le Front Sandiniste et Ortega au Nicaragua.
Alors, quels sont vos choix, justement, de projets?
Alors, il y a deux choix dont Martha pourra parler.
Il y a un choix qui s'appelle, c'est une association de femmes qui ont fait un projet, ça s'appelle AMA, l'association des femmes, des mujeres, et d'avril pour le contentement avec les 80 et 2018. Alors, et cette association, ils ont fait une musée pour bon, c'est un musée avec des photos des choses des gens qui sont morts. Alors, il y a la photo de la personne morte et il y a des objets, il y a l'histoire de cette personne. Et alors, ils disent qu'il faut faire, c'est un musée de l'histoire qu'il ne faut pas oublier. Alors ça, c'est une association qui on aide. Et il y a aussi une autre association qui elle est...
La mémoire des persécutés, en quelque sorte. Il faut la garder.
Oui. Ouais. Et il y a l'autre qui c'est une association qui travaille au Costa Rica. Et c'est un centre où ils aident les gens qui arrivent à avoir son statut de réfugié et après ils les aident à avoir son...
À trouver du travail.
Oui, les permis pour travailler. Oui. Et après, et pour, oui, bon, au début, quand ils arrivent, ils ont des maisons où ils les donnent un kit d'installation. Alors, le kit d'installation, il y a des choses à manger pendant 3 mois. Ça dépend si c'est des familles, si c'est des personnes tout seules. Et alors, ils essayent de les aider avec toutes les démarches administratives de Costa Rica. Et après, ils les aident à faire des petits projets pour acheter, par exemple, des pelles ou une machine à coudre ou des choses comme ça. Et alors, et aussi, ils sont à côté de la frontière. Il y a beaucoup de personnes là-bas, des réfugiés. Et là, ils ont des projets de production, d'agriculture. Alors, ils sèment là-bas des haricots rouges ou noirs. Ils sèment des cacao, des maniocs, il y a plusieurs produits qu'ils aiment. Il y a aussi des projets pour contre la violence des femmes, et à faveur de l'environnement et pour le recyclage. Alors il y a plusieurs, et aussi ils aident beaucoup aux gens ils sont un appui psychologique aussi. Et parce que les gens viennent avec
avec leurs problèmes.
Avec les problèmes.
Les réfugiés. Oui.
Il y a des gens qui étaient dans les prisons et des trucs comme ça. Bon, ils ont perdu quelqu'un. Et il y a des grands problèmes psychologiques. Alors, alors, nous, on a choisi cette association parce qu'on a vu le travail qu'ils font. Et c'est très, très important. Ouais. Parce qu'on voit qu'ils font vraiment du travail. Là-bas, il y a aussi une autre association qui travaille aussi avec les paysans, mais c'est les paysans nicaraguains aussi.
Alors, pour les gens qui sont restés au Nicaragua et que vous aidez, comment vous y prenez-vous? Est-ce que c'est facile d'avoir un contact?
Ben, les seuls contacts qu'ont certains d'entre nous avec des gens au Nicaragua, c'est des amis, des connaissances qu'ils avaient avant et qui sont restés sur place. Hein. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de soutenir concrètement, peut-être officieusement, mais concrètement, officiellement, une association là-bas au Nicaragua même. C'est pour ça qu'on passe par le site AMA. Donc là, on est dans un site, disons, entre guillemets, culturel, de soutien, de mémoire, hein, ah oui, autour de tous les gens qui ont été assassinés par la dictature ortéguiste. Et sinon, C'est à l'extérieur qu'on a trouvé, la, donc avec ce que vient d'expliquer, ce qu'elle vient d'expliquer.
Oui, tout à fait.
Donc, soutenir des émigrés hein, qui ont dû partir hein, actuellement, qui sont actuellement au Costa Rica, les aider à reprendre pied.
Hein. Alors, vous avez des comptes rendus de ce qui se passe là-bas, rapide.
Enfin... Oui, oui, oui. On a des comptes rendus. Par exemple, quand on arrivait à envoyer de l'argent, il nous amène, bueno, il nous envoie tous les rapports de qu'est-ce qu'ils ont fait, à quoi ça peut servir cet argent et tout ça. Ils ont un bon contact.
Et est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent aller sur place?
Sur place au Nicaragua ou...
Non, au Costa Rica.
Ouais. Ben. Moi. Moi, oui. Oui, oui, je suis allée. Moi, j'étais bon, à San José, où ils ont une maison. Et je suis allée aussi à Upala, qui est l'autre endroit qui est à côté de la frontière. Là. Ils ont aussi une maison où ils accueillent les gens qui arrivent. Et là, et à côté, ils ont les projets dans différents petits villages de cet endroit. Ouais.
Voilà, vous pouvez témoigner.
Ouais.
Vous, ouais. Vous avez vu sur place ce qui se passe.
Oui. Ouais, ouais, ouais.
Alors, vous avez aussi des contacts avec SOS Nicaragua, je crois,
oui,
absolument, sur le plan national.
Donc. Alors, SOS Nicaragua est une structure qui existe internationale, hein, qui existe en Europe et en France, qui est donc constituée de Nicaraguayens qui sont plus dans leur pays actuellement. Et il faut reconnaître en particulier SOS Nicaragua France, hein, avec lesquels nous sommes en contact direct maintenant, qu'ils publient à peu près chaque mois sur Internet actuellement un état des lieux, hein, en trois langues, hein, français, anglais, espagnol, évidemment. Donc, d'informations venant un peu de différents niveaux, différents journaux, différents groupes, etc., sur la situation au Nicaragua. Hein, c'était un panel d'informations assez large que nous trouvons très, très intéressant. Et bientôt, ils vont le mettre en site. Hein, alors, bientôt. D'ici quelques mois, ce sera sur un site Internet. Pour l'instant, nous le recevons par journal, par Internet, hein,
voilà, que nous faisons suivre. À vos adhérents.
Voilà, qu'on renvoie à nos adhérents.
Oui, donc ça, c'est un lien intéressant sur le plan
tout à fait, oui.
De l'information. Alors sinon, sur le plan local, comment agissez-vous?
Sur
alors,
le plan
vous
local,
êtes membre de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité
absolument,
internationale.
Ce qui est très bien pour nous. Hein. Nous avons organisé donc ici une fois... Hein, on pouvait encore se déplacer, c'était en fin d'année dernière, hein, si je ne me trompe pas, ça devait être en novembre, trois Nicaraguayennes, hein, deux étrangères, deux émigrées et une qui vit au Nicaragua, qui sont venues nous faire une présentation, c'était dans la salle de la MTM, hein, c'était en novembre, je pense, 2019. Hein.
Oui.
Et depuis, effectivement, tout
vous
a été...
Vous avez fait venir un film aussi.
Il y avait, oui, il y a quelqu'un qui est monté, oui, oui, au même moment, oui, qui est un... Ah oui, c'est autre chose. Un film, parce qu'on est montré à cette époque-là un petit film, mais on a fait un film juste avant que tout se ferme, c'était fin février, courant février, donc au cinéma
Utopia.
Hein. Oui. Donc avec le réalisateur espagnol qui est très intéressant, hein, qui avait accepté de venir, qui était là. Et là, ça a été une soirée. Alors, il y avait 80 personnes quand même, bon, ce qui est bien, hein, oui, il y a eu un débat qui a duré très intéressant. Par contre, là, le débat était très... Tu y étais, toi? Non, non, tu n'y étais pas. C'était un débat vraiment très intéressant. Alors, toujours un peu lent parce qu'il fallait traduire, hein, la personne espagnole. Bon. Mais c'était vraiment, là, c'est pour nous, c'était un moyen de montrer avec son film un peu l'état des lieux filmé, un réel.
Oui, tout à fait. Alors, vous souhaiteriez refaire la même chose, mais en ce moment, c'est bien difficile.
Ah ben en ce moment, de toute façon, tout est repoussé, annulé, tout doit être fini avant 20 heures. Donc c'est...
Et oui.
Bon.
La quinzaine de la solidarité internationale qui devait commencer justement à la mi-novembre est remise en cause. Il y aura quand même des choses qui vont se passer. Nous vous en parlerons dans les émissions qui viennent. Mais beaucoup de choses ont été supprimées et remises à plus tard. Elles auront lieu, mais nous l'espérons au printemps. Notamment, vous vouliez faire quelque chose sur le coronavirus.
Le coronavirus, un peu au niveau international. Hein, avoir essayé d'avoir des images de différents continents, hein, différents pays dans différents continents, voir un peu comment ça pouvait être traité par le haut et puis par la base. Quoi.
Voilà, c'était intéressant comme projet, puisque c'était dans toutes les parties du monde.
Mais le projet est reporté.
Voilà, on verra évidemment au printemps si on peut vous proposer encore quelque chose. Alors, vous avez porté à nouveau une musique, on va l'écouter avant de passer au calendrier. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs comment on peut vous joindre?
Alors, pour nous joindre, on n'a pas de site pour l'instant, mais par contre, on a une boîte aux lettres électronique, donc qui est comité trait d'union Nicaragua, trait d'union Occitanie, @gmail.fr. Donc là, si vous avez des besoins et que vous voulez nous joindre, savoir ce qu'on fait, c'est comme cela qu'il faut nous contacter.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Dulcir et Martha Chacon. Je passe au calendrier pour vous rappeler que samedi 31 octobre, de 9h à 14h, à l'ancienne bibliothèque de Jacou, au 18 avenue de Vandargues, aura lieu une vente de vêtements par un collectif de bénévoles de Jacou qui s'appelle Fée. C'est une friperie éphémère pour les enfants. Et cette vente de vêtements aura lieu au bénéfice d'Enfants du Mékong. Enfants du Mékong bénéficiera par cette vente de financement pour le centre Enfants du Mékong de Sisophone au Cambodge. Ce centre accueille actuellement près de 500 jeunes en internat, externat ou étudiants et leur assure des cours complémentaires jusqu'à la terminale, et ce dans toutes les matières. Donc, il est important d'assister à cette vente et d'y participer si vous le pouvez. Aussi, le samedi 31 octobre et le dimanche 1er octobre, il y a au parc zoologique de Ludaré le Festival de la biodiversité 2020 et Salon de l'écologie avec des animations, des spectacles, des jeux, des conférences, une expo. Donc ce parc zoologique est bien venu pour pouvoir faire quelque chose en plein air dans ce temps de confinement. Samedi 31 octobre, à 10h et à 15h, à Montpellier, 14 rue Durand, aura lieu une conférence débat, une monnaie locale, comment ça fonctionne, avec Gérard Stroman, qui est trésorier de la Graine, professeur d'économie et militant écologiste. C'est organisé par la Graine 34, qui est la monnaie locale de l'Hérault. Samedi 7 novembre à La Boissière, il y aura un ciné-ferme avec la conférence paysanne, la Confédération paysanne, pardon. Le film Chemin de travers sera suivi d'un apéro dégustation des produits de la ferme et c'est dans le cadre du festival alimentaire. Même chose d'ailleurs aussi à la salle Pétrarque, mais mardi 3 novembre, le film qui sera présenté par la chaire UNESCO Alimentation du Monde dans le cadre de ce festival est le système alimentaire de Fès au Maroc, et en présence des réalisatrices de ce film et dans le cadre toujours du festival alimentaire. Enfin, dans le calendrier régional, le mardi 3 novembre, à Montpellier Espace Cap de Ville, 417 rue Samène-Morse, a lieu un atelier sur garantir la qualité de l'eau distribuée aux populations dans les projets de développement, retour d'expérience et témoignages d'acteurs de la région Occitanie, avec des notions de base en termes de qualité, analyse de l'eau, étude des techniques pour améliorer cette qualité, et c'est organisé par Occitanie Coopération et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, avec possibilité de suivre cette session à distance sur votre ordinateur. Donc il faut s'inscrire avant le 1er novembre, vous pouvez vous adresser à Christophe Brosset du CARI, qui s'occupe aussi du PSO, au 04 67 55 61 18. À bientôt, chers auditeurs. Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Mercredi 4 novembre à 17h45 au cinéma Diagonal, présentation du film Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine. C'est une séance suivie de débat avec le réalisateur Roland Nurier et c'est organisé par l'AFPS 34 dans le cadre de Bethléem, capitale de la culture arabe 2020. Beaucoup de choses avaient été prévues évidemment en 2020 pour cette Bethléem, capitale de la culture arabe, qui ont dû être interrompues aussi par le confinement. Il y avait quand même eu, au moment du festival arabesque, des choses qui ont pu se passer. Et là, on vous convie, bien sûr, mercredi 4 novembre, au cinéma Diagonal, à 17h45, à poursuivre cet événement. Alors, je dois dire aussi très rapidement que nous avons le bonheur de savoir que le traité sur l'interdiction des armes nucléaires vient d'atteindre sa 50e ratification ce 24 octobre. Et maintenant, on peut dire les armes nucléaires sont interdites. On vous en reparlera. À bientôt, chers auditeurs.